Salut à tous et bienvenue sur Archéociné, Archéociné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Bienvenue à tous les cinéphiles du siècle dernier et même actuel,
puisque futur.
Je pense qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent dans nos auditeurs. Et pour commencer, on va, comme d'habitude, commencer par l'intro du film et essayer de voir ce que c'est, parce que ça part sur les chapeaux de roue. Un peu difficile comme ça de reconnaître sans les images. Et avec nous ce soir, on a Benoît et Blaud. Et vous, est-ce que vous seriez capable de reconnaître le film comme ça, rien qu'à entendre cette intro?
Absolument pas.
Ouais, moi j'hésiterai entre le film qu'on va faire et Charade, mais je pense que je trouverai quand même que c'est lui.
Bon, déjà, est-ce que vous allez bien tous les deux?
Très bien, très bien.
Ça va, ça va.
Salut à tous.
Bah ouais, c'est difficile à reconnaître parce que comme beaucoup de films des années 80, ça commence comme ça, en pleine action, sans vraiment la musique, le thème du film. Et en fait, il s'agit de Top Secret, qui est un film parodique américano-britannique réalisé en 1984 par le trio David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker. Hein, surnommé les Az. Et en fait, la petite histoire, c'est Nick Rivers, qui est une vedette américaine du rock'n'roll, est invité en République démocratique allemande pour participer à un festival culturel international qui n'a en réalité pour seul but que de camoufler une opération secrète visant à détruire la flotte sous-marine de l'OTAN. Bon, c'est vrai que là, on parle de la RDA. Et si on n'a pas un certain âge, RDA, RFA, on ne sait pas trop de quoi on peut parler, mais à nous, ça nous parle bien, hein, les gars.
Oh, ouais.
Bah oui et non, en fait, parce que du coup, je suis né un an après le film, et du coup, c'est pas une période, quand t'es enfant, où tu te rends compte, je sais même pas, si... moi, dans ma tête, le mur de Berlin, quand il est tombé, c'était pas un impact incroyable sur moi, tu vois. Pas, j'étais pas assez vieux pour ça.
Ah ouais, tandis que... c'est vrai que moi, quand le mur est tombé en 89, comme j'avais 15 ans, c'est sûr que ça m'a... C'est des images qui me sont restées, quoi. Et donc c'est vrai que cette ambiance qu'il y avait, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest... j'étais ado, donc c'est vrai que ça me parle encore. Mais bon, là, c'est un film un peu plus gay, parce que c'est un film parodique. Oui, oui. Donc on est en plein délire, parce que c'est les As qui ont fait le film. Donc on verra un peu plus tard ce qu'ils ont réalisé pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième intro du film, qui, elle, est la vraie musique d'intro. Qui est donc première scène du film, quoi. Allez, on écoute ça.
Herr Major Kampel, où en sommes-nous du plan de diversion?
Le calendrier du festival culturel est entièrement arrêté, Herr Général.
Et vous vous réjouirez d'apprendre que comme vous en avez exprimé le vœu, les soviétiques ont consenti à faire chanter le célèbre ténor Vladimir Biletnikov.
Bien joué, Herr Major. Tout s'est bien déroulé selon notre plan.
Eh bien, non, à vrai dire, Herr Général. L'Américain Leonard Bernstein a été forcé d'annuler son concert. Et ils envoient à sa place un autre artiste. En fait, nous venons de recevoir cet exemplaire de son tout dernier 30 cm. Il se nomme Nick Rivers.
Je suis persuadé qu'il fera l'affaire. Tant que les yeux du monde contemplent fixement notre festival culturel, nul ne saura ce que nous complotons dans l'ombre. Et une fois de plus, l'Allemagne se trouvera réunie sous une seule loi, la nôtre. À partir de dimanche, personne ne pourra plus nous arrêter.
If everybody had a 12 gauge and a support tube, you'd see them shooting and serving in a Malibu. Because it's totally bitchin', riding waves to blast their pigeons, and it's so neat shooting ski while you're riding on the heavies all day. We're waxing down our surfboards and loading up our traps. Tell the teacher we're shooting, we're never coming back. I've got a gun rack in my Chevy for when the surf and the flat gets heavy. And we'll have fun with our guns till a lifeguard takes our ammo away. First wave, don't get us higher. Second wave, pull us higher. Third wave, pull us higher. Sweet surfing, it's alright. First wave, get the mask. Second wave, pull on the strap. Third wave, how is that? Sharing sunsets with my favorite girl. When we shoot the girl, we really shoot the girl. First wave, shoot, don't get us higher. Second wave, shoot, we need us higher. Third wave, shoot, pull on us higher. First wave, shoot, get on the match. Second wave, shoot, pull on the strap. Third wave, shoot, wow, it's fast.
I wish they all could be double barrel. Wish they all could be double barrel guns. Skeet surfing, can't you see? Do you wanna come along with me? Skeet surfing, can't you see?
Alors on a un super thème sur le thème des un peu dans l'esprit Beach Boys, le groupe des Beach Boys. Et là, on le voit pas, mais c'est vrai que c'est une intro un peu loufoque parce qu'on a des mecs qui font du surf et puis qui font du... Comment ça s'appelle
Ball trap.
Du ball trap, ouais, sur le surf. Et bah, les mecs, des fois, ils gaffent, ils dégomment des avions. Et dans l'esprit Zaz encore, il y a des choses qui se passent en arrière-plan, même pas mal de choses. Il y a des gags partout... il faut avoir les yeux un petit peu partout, Benoît.
Oui, oui, oui. Alors, c'est vraiment, comment dire, la marque de fabrique. Hein. Comment dire, la mise en scène qui paraît assez, des fois, simpliste, mais qui... En fait, il y a beaucoup de gags qui sont faits par rapport à la mise en scène. Tu vois, le placement de la caméra, le travelling et tout, joue sur le... Enfin, c'est un ressort comique, en fait.
Ouais. Ouais, puis Blood, c'est vrai, toi aussi, tu trouves que c'est complètement...
Oui, oui, impossible de voir tous les gags à la première visualisation du film. Hein.
Enfin, c'est vrai. parfois, quand tu le revois une deuxième, voire une troisième fois, tu te dis eh, mais j'avais pas vu ce truc-là. Parce que c'est tellement au fond du fond du fond de l'arrière-plan. Ouais. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, réalisé par donc les As, Jim Abrams, David Zucker et Jerry Zucker, on a une production de John Davison et Hunt Lowry. On a un scénario des As et avec Martin Burke en plus. Une musique de Maurice Jarre.
Le papa de Jean-Michel.
Exactement. Donc, un petit français à la musique. Qu'est-ce qu'on a après? C'est distribué par la Paramount Pictures. C'est un film qui dure 90 minutes, donc une heure et demie. C'est sorti aux États-Unis le 8 juin 84 et en France, c'est sorti le 26 septembre 84. Et avec ça derrière, on a une belle distribution. Il y a pas mal de second rôle, mais dans les second rôles, il y a quand même du lourd. Blood, hein, tu vas nous dire ça?
Alors, ouais, exact. Alors, déjà, il y a Val Kilmer, donc, dans le premier rôle, qui est doublé par Eric Legrand. Et donc, Val Kilmer joue Nick Rivers, donc le jeune chanteur américain en vogue. Nous avons Lucy Guthridge qui joue Hilary Flamand, qui est donc une agent secret britannique. Billy J. Mitchell qui joue Martin, le manager de Nick. Christopher Villiers qui est doublé par Patrick Poivet. Il joue Ange, donc en VO c'est Nigel. Et donc alias La Torche, c'est le chef de la résistance. Michael Gow, qui est doublé par Roger Crouzet, qui joue donc le docteur Paul Flamand, chercheur dans le nucléaire, c'est le père d'Hilary. Jim Carter, là, c'est dans les seconds rôles plutôt, il fait donc déjà vu, c'est un résistant. Omar Sharif, bon, lui, il a un rôle qui dure pas très longtemps, mais quand même complètement déjanté, qui fait l'agent Cédric, c'est un collègue d'Hilary. Peter Cushing, qui fait Svev Jorgensen, c'est un libraire suédois, complètement déjanté aussi. Warren Clark, qui fait le colonel Van Horst.
Ouais, alors vu comme ça, c'est vrai que comme y a certains noms qui ne sont pas parlants, mais quand on va voir tout à l'heure leur filmo, c'est, ils ont joué dans de sacrés films. Hein, tous.
Ah bah, rien que ne fait ce que les gens qui ont connu les années 90 connaissent forcément Omar Sharif parce que c'était la passion du cheval.
oui. Et oui. Peter Cushing aussi.
Eh oui, on en parlera plus tard.
tu nous en parleras plus tard.
Ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'avais pas vu parce que je l'ai vu en VO là et mes souvenirs de la VF sont beaucoup trop vieux. On me rend compte que c'était Eric Legrand qui doublait Val Kilmer. Et Eric Legrand, c'est la voix de Vegeta.
Ouais, exact.
Ah ouais, c'est vrai, punaise.
Oui. Bah oui. Non, mais ouais, ils doublent plein de trucs, les gars. Mais des fois, ils modifient un petit peu leur voix, mais...
Et Pierre, allez, tête, si je dis pas de bêtises, la voix de Martin, c'est la même voix que Doc dans Retour à le futur.
Faudrait regarder. Bah tiens, Blood, tu vas nous chercher ça le temps qu'on s'écoute un petit extrait.
J'espérais plus te voir ici. Ça fait 20 minutes que je suis là.
Nick, j'ai tout essayé. L'ambassade, le gouvernement allemand, le consulat. J'ai même parlé aux représentants des Nations Unies. C'est sans issue. Je n'arrive pas à faire jouir ma femme.
Ça doit être très dur pour toi. T'as essayé ce genre de truc ?
Oh, ça, c'est gentil. Elle sera profondément touchée.
Tu sais, Bobby, je commence à m'inquiéter sérieusement. Je me demande même s'ils savent ce que c'est qu'un avocat. Tout ce que je peux dire, c'est qu'hier soir, après ton départ, j'ai rencontré une fille. Un peu plus tard, je l'aperçois dans une loge à l'opéra. Et tout à coup, je vois ce type qui la menace avec un revolver. Et tout indique qu'il est sur le point de la tuer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il aurait fait si j'étais pas intervenu. Donc tu dois pouvoir appeler quelqu'un qui saura nous tirer de cette mélasse.
Écoute... Je pense qu'ils le laisseront sortir pour ton concert de vendredi. D'ailleurs, le programme va être relayé en direct par satellite. Tu n'as qu'à te détendre et n'oublie pas, dans la vie, faut pas s'en faire. Hein ?
Ouais, donc c'est quand Nick Rivers il s'est fait arrêter par la police allemande puisque il en a un petit peu trop... Enfin, il a aidé l'espionne à s'en sortir, du coup il s'est fait arrêter. Et t'as son manager qui vient le sortir de prison et il s'est carrément barré parce que du coup, Nick Rivers, il lui sort comme ça un monumental sextoy où on peut, comment dire, changer les embouts par des trucs les plus dingues. Enfin, c'est on y a que dans des films comme ça qu'on peut voir ça. Hein.
Oh ouais, on croit un marteau piqueur en exagérant un peu le truc.
En plus.
Et ce qui est dingue, c'est que du coup, c'est aussi un fusil de Chekhov pour une autre blague, plus loin.
Oui, bah oui. Et d'ailleurs, j'avais vu que cette scène-là avait été censurée quand c'est passé sur la chaîne Paramount. Mais du
je crois
coup...
qu'on en reparlera plus tard, peut-être, non?
Oh, ouais, c'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai que c'est dans les trucs de plus tard. Mais
coup,
voilà.
Mais du coup, avec l'audio, ça fait bizarre parce que là, comme ça, t'as vraiment l'impression d'entendre Doc et Vegeta parler, quoi.
C'est vrai. C'est vrai quand on regarde pas, ouais. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que ça avait été réalisé par les Az. Donc, c'est un collectif de réalisateurs. Hein. Ils sont scénaristes et producteurs américains. Donc, il y a les deux frangins, hein, David et Jerry Zucker, et Jim Abrams. Ils se sont fait une spécialité des parodies de films à succès. Et on leur doit, alors là, tout le monde connaît, hein, Y a-t-il un pilote dans l'avion ? La série Des Y a-t-il ? Hein, mais avant ça, ils ont commencé en 77 avec Hamburger Film Sandwich, qui a été réalisé par John Landis et dont ils ont fait le scénario du film. En 80, Y a-t-il un pilote dans l'avion ? En 82, ils ont fait Police Squad, qui est une série télé. En 86, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ? En 88, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? En 91, y a-t-il un flic pour sauver le président ? En 94, y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Tous ces films-là, c'est des films à gags, des films complètement barrés, complètement loufoques. Et puis après, derrière, on a des films apparentés hein, à l'esprit Zaz, parce qu'il n'y avait qu'un seul ou deux des membres du trio. Et à eux, on leur doit Hot Shots en 91, Hot Shots 2 en 93, Le Prince de Sicile en 98, Basketball en 98 également, Sky Movie 3 en 2003, Sky Movie 4 en 2006. Donc, ils ont un gros palmarès de films déconnants, complètement déjantés et qui font bien marrer. Tout le monde n'aime pas, mais moi, j'en suis friand. Voilà, les gars, c'est votre genre de film aussi?
Ah ouais, quand je sais pas quoi mettre, s'il y a rien de bien le soir, tu choisis un de ceux-là, puis c'est bon. Hein.
Ouais, Benoît ?
Ah bah forcément, on a tous vu et apprécié. Après, du coup, c'est le premier là que je revois des années plus tard et c'est un peu différent. Mais enfin, c'est pas la même, c'est plus la même approche, si tu veux, en termes de. Enfin, avant, c'était vraiment des films. Il me faisait rire. Là, sur celui-là, en fait, j'ai surtout... Enfin, j'ai pas rigolé. Peut-être aussi parce que, finalement, je le connaissais, même si j'en ai pas du tout un souvenir. J'avais plus de souvenir du tout hein, du film. Mm-hmm. Par contre, t'es là à te dire « Oh la vache, putain, la trouvaille du sketch, tu vois. » Et tu te dis « C'est quand même dingue de dire ça sur un film qui a près de 40 ans, quoi. »
Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a des bons trucs, quand même. Et Benoît, je te laisse enchaîner sur le Val qui meurt, parce que c'est vrai qu'il a un palmarès long comme le bras, et là, c'est un acteur qui a une histoire aussi. Donc tu vas nous en dire plus un petit peu.
Parce que du coup, 84 Top Secret, c'était son premier rôle. Et ouais. Du coup, pour ceux qui veulent le resituer, pourtant il a une gueule assez reconnaissable, c'était aussi Iceman dans Top Gun en 86. Mad Martigan, c'est chiant à prononcer. Hein. Dans Willow, forcément.
Oui.
Dans les rôles notables, parce que je vais en passer, hein, sinon c'est trop long. Ouais. The Doors, forcément, d'Oliver Stone, où il fait Jim Morrison. Et du coup, quand tu étais fan des Doors et que tu voyais le film, c'était juste incroyable.
Bah, il a la gueule et la voix.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, l'affaire Karen McCall en 93. Forcément, Batman Forever en 95. Le fameux film de Joel Schumacher. Hit, juste derrière, la même année. Et L'île du docteur Moreau en 96, qui est un film important de John Frankenheimer. Important parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui tournent sur le tournage de ce film-là, plus que sur le film en lui-même. Parce que du coup, c'était aussi un film de... Ah avec l'acteur du Parrain. Comment j'ai pu oublier son nom? Le Parrain, mince.
Coppola, non?
Bah non.
C'est pas Coppola?
Non, le l'acteur.
Non, pas Coppola.
Ah oui, l'acteur, pardon.
Marlon Brando, voilà.
Oui, ah oui. Ouais.
Comment j'ai pu oublier son nom? Voilà, il y avait tout un tas d'histoires sur l'histoire, enfin les livres du docteur Moreau. Le Saint, 97.
Adaptation du roman de H.G. Wells.
C'est ça, exactement.
Qui est très sympa, très sympa.
De toute façon, H.G. Wells, voilà, ce sont les comment dire, les auteurs importants, et notamment via ces genres d'œuvres. Donc oui, Le Saint en 97. Alors ça paraît tard, parce que Le Saint, c'est quand même pas... tout récent, hein, où du coup il joue Simon Templar. C'est des romans emblématiques pour les séries TV de Roger Moore. Mais pour nous, enfin je sais pas pour vous, mais moi Le Saint et tout, c'est le genre de série, bah, tu te tapais en boucle même si t'aimais pas, parce que c'était multi-rediffusé sur M6 dans les années 90. Quoi. Donc ça paraissait presque récent par rapport à l'arrêt, je veux dire, de la série. En tout cas pour la diffusion chez nous. Parce que c'était tous les dimanches, je crois, un truc dans ce genre-là. Ensuite, il y avait Planète Rouge d'Anthony Hoffman en 2000.
Ah ouais, il est sympa.
Oui.
Ça se passe sur Mars.
C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, parce que du coup, il y en a plein. Il y a Alexandre aussi d'Oliver Stone. Il retrouve Oliver Stone en 2004.
Il y a pas mal de films à son palmarès. Hein.
Mais l'un des plus importants dans les années 2000, c'est Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black avec Robert Downey Jr.
Ouais.
Donc celui-là, faut le voir, il vaut vraiment le coup, c'est vraiment du pur Shane Black. C'est pour moi le meilleur avec, comment ça s'appelle? C'est dans la même veine que, mince, The Nice Guy.
Ah oui, oui.
Donc c'est vraiment, les panthéons de Shane Black. À côté, ne regardez pas Predator. Mais vraiment, je crois que The Nice Guy, c'est dans mes films préférés, c'est tellement incroyable ce film. Après, il y a tout un tas de merde, forcément, parce qu'il a fait pas mal de trucs un peu alimentaires. Mais dans Le Lot, tu retrouves en 2011, tu le retrouves dans un film fantastique de Francis Ford Coppola, Twix, et pas Twix de Bois Coupe Fin, que je n'ai pas vu, mais que j'ai dans ma to-do list, parce qu'apparemment, ça vaut quand même le coup d'œil.
Ok, je l'ai pas vu.
Ah bah ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'ait vu. Il fait une apparition dans le Top Gun de Maverick, hein, en 2022. Et dans les séries télé, sinon, bon, il est un peu passé vite fait partout, dans Numbers, Entourage, Le Retour de K2000. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette série. Il fait la voix de Kit.
Non. Ah d'accord, ok.
Bah, c'est une série, franchement, c'est vraiment l'espèce de veine de série que tu regardais. Tu pouvais tomber dessus sur M6 dans les années 2000, quoi. Tu vois le truc, bah, c'est un petit peu aussi dans la même veine que, enfin, j'ai vu des images du Code Quantum nouvelle version là, ça ressemble à ça mais en plus fauché.
D'accord.
Puis bon, dans les années 2000, une voiture qui parle ou qui est un peu automatisée, bon, ça perd un peu de son intérêt.
Ouais.
Parce que finalement, la voiture serait moins bien que celle de maintenant.
C'est ça. mais une série pour laquelle il a eu un rôle assez particulier. Et d'ailleurs, qui n'est même pas dans ma liste, mais je l'ai mis tout en bas, c'est Life Too Short, donc Un Petit Brin de Vie. C'est une série anglaise de Rick Gervais et Stephen Merchant, donc les papas de The Office. Et aussi, écrit et réalisé aussi, enfin co-écrit et co-réalisé par, enfin co-réalisé, je ne suis pas sûr, mais co-écrit et co-créé, ça c'est sûr, avec Warwick Davis, donc Willow.
Ah, oui.
L'acteur
oui.
qui fait Willow, et en fait, cette série-là, elle est vraiment à voir, elle fait une ou deux saisons maximum, je crois. Et du coup, c'est une sorte de faux documentaire sur la vie de Warwick Davis après Willow et tout ça, quoi. Et du coup, ça décrit un acteur complètement abus de lui-même, vraiment un sale type, quoi. Donc il s'amuse avec cette image-là, et dedans, il y a toute une partie, il y a toute une intrigue secondaire sur le fait que il y aurait un Willow 2 en préparation, et du coup, Val Kilmer qui essaie d'y aller, tout ça, et on voit bien que, enfin, dans le truc, Val Kilmer et Warwick, Warwick, il a un peu il veut pas se retaper Val Kilmer, pour lui, c'est un acteur has-been, machin truc, et il fait vraiment le mec qui essaye de revenir en force, tu vois. Et c'est assez particulier avec l'histoire de Val Kilmer, parce que, ces dernières années, on en a surtout beaucoup entendu parler, parce qu'il a eu un cancer de la gorge, je crois.
Oui.
Enfin, en tout cas, qui atteint sa gorge. Du coup, il a perdu sa voix.
Ouais, c'est ça.
Mine de rien, comment dire, en 2015, voilà, il a eu un cancer de la gorge, subi plusieurs chimio et compagnie. Il a quand même réussi à jouer dans quelques films. D'ailleurs, c'est marrant, je suis tombé sur des films de lui sur Netflix, là. Ouais. Où ça a l'air d'être vraiment des DTV, tu sais, genre les films où ils ont un petit peu poncé Bruce Willis jusqu'à la mort, là, pour les faire cachetonner. Mais apparemment, c'est un film sur l'univers carcéral, je sais plus ce que c'est. Il y a de très bonnes notes dessus, j'étais étonné. Comme quoi tout arrive. Et il a vécu seul pendant 20 ans et utilise une boîte vocale pour parler maintenant.
Oui.
Il a perdu son ranch au Nouveau-Mexique parce que plus d'argent, plus rien, enfin déchéance totale. Il a un petit retour en grâce depuis quelques années justement avec son cancer et parce qu'il y a eu un documentaire qui est sorti qui s'appelle Val, que j'ai pas vu en entier parce que j'ai pas voulu trop le regarder ce documentaire parce que justement c'est un documentaire du point de vue essentiellement de Val Kilmer. Et c'est un acteur qui est quand même connu pour être plutôt exécrable sur les plateaux. Mmh. Ou un acteur à problème, quoi. Notamment, comme on disait, sur l'île de Dr. Moreau, il était insupportable. Il y a eu des conflits avec le réalisateur. Le réalisateur avait dit moi plus jamais je travaille avec Val Kilmer. Mmh. Il avait aussi des relations tendues avec Tom Cruise sur Top Gun, ce qui du coup rend d'autant plus incroyable son retour dans Top Gun Maverick. Sur Batman aussi il y a eu pas mal de soucis. Comment il s'appelle, Schumacher avait déjà dit que Val Kilmer c'était c'était un très très bon Batman, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est compliqué de tourner avec lui. Tiens, petit truc rigolo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le docteur, le professeur dans Top Secret, le père de la fille de Hillary, là, c'est le Alfred de Batman.
Ah oui, ouais.
Ouais, c'est lui.
Donc, 10 ans plus tard, ils rejouent ensemble.
C'est
rigolo.
Ouais, c'est vrai.
Le problème avec le documentaire, c'est que à l'annonce de son cancer, le documentaire et des interviews qu'il avait fait dans Variety, je crois, ou Vulture, je sais plus, par l'un des deux, ça a un peu inondé l'internet des déclarations et des mea culpa de Val Kilmer qui rendent très difficile maintenant la recherche sur justement ce qui s'est un peu passé. Sur ces choses-là, donc, ça disait, genre de documentaire, quand on les regarde, c'est un petit peu le mec qui dit « Oh, j'ai été méchant, mais je suis repenti », mais quand il dit, comme si t'avais un gosse qui était avoué qu'il avait cassé une fenêtre, mais que du coup, tu voyais pas qu'il avait brûlé le bureau, quoi, tu vois. Donc là-dessus, ouais, c'est un petit peu compliqué de retrouver. Sinon, j'ai pas dit, mais il est né donc en 59, ce qui fait qu'il doit avoir... 63 ans, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça.
Ouais, ça doit faire ça, ouais.
Le temps de calcul n'est pas compliqué. Hein. à Los Angeles, donc, c'est un enfant d'Hollywood, donc il a fait du théâtre, forcément, on voit aussi qu'il est très doué aussi pour chanter et danser. Parce que, mine de rien, ça c'est un souvenir que j'avais pas du tout. de Top Secret, c'est que, bah, mine de rien, il y a quand même beaucoup de passages chantés et dansés dedans.
Oui.
Et limite, si tu regardes au ratio temps du film, ça en fait plus une comédie musicale que La La Land.
C'est vrai que ouais, y a pas mal de passages musicaux. Ouais.
Et c'est intéressant de voir ça, parce que justement, quand on dit que c'est des films qui, des fois, sous couvert d'une mise en scène qui paraît basique, en mettent plein la vue, parce que justement, les scènes de danse et de machin, c'est des trucs où il se passe toujours plein de trucs très vite, et du coup, ça demande des chorégraphies assez, assez incroyables. D'ailleurs, si un jour vous voulez voir un film avec des chorégraphies et le fait que la mise en scène mise tout sur les interactions entre les acteurs et tout ce qui se passe un peu partout, je conseille Climax de Gaspard Noé.
Okay.
Qui est un film très bizarre, mais genre, pour donner une idée, ils ont répété une scène de danse qui dure 12 minutes. Ils l'ont filmé genre 5 ou 6 fois. Et en fait, du coup, même la moitié du film, c'est quasiment un plein séquence, 30 minutes, je crois. Et Gaspard Noé, bah, il savait pas ce qu'il allait filmer en avance, tu vois. Il a été pris comme, tu vois, bah, il suivait, il se retournait là où c'était important, s'il se passait un truc. Mais il se passe tout le temps des trucs dans ce film, c'est incroyable. Enfin, bref. Mmh. Et du coup, c'est un peu dans le même genre. C'est-à-dire que même si t'as ta caméra qui se balade, t'as une direction d'acteur et t'as le fait que bah, ta mise en scène, mine de rien, elle est travaillée, quoi.
Oui.
Donc voilà, donc reconnaissance critique au fil des années, ça fait partie de ces acteurs qu'on a un peu boudés, mais qu'on a réhabilités, notamment comme je disais avec, avec toutes ces histoires. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur ce qui s'est passé sur le tournage de l'île de Dr Moreau, je conseille la vidéo de Nicolas Delage, qu'on a fait une, assez complète sur le sujet, parce que justement, ça fait partie de ces films qui sont plus intéressants à découvrir pour ce qui s'est passé, plus que pour le film en lui-même, quoi. Donc voilà, donc bah, c'est en partie son comportement qui, enfin c'est même complètement son comportement qui a donné la chance à George Clooney de jouer Batman. Parce que bah, voilà, c'était juste plus possible de le faire jouer dans Batman, c'était insupportable. Et Val Kilmer, on regarde quand même un souvenir assez spécial de Batman, parce que bah, pour lui, c'était presque un rêve de jouer Batman quand il était petit, mais en fait, quand tu te retrouves dedans, tu te dis, bah ouais, mais en fait, jouer Batman, c'est pas jouer à Batman, quoi. Et, ouais. J'avais même vu passer un truc, raconter l'histoire dans un... où bah, du coup, il venait habillé en Batman dans des hôpitaux avec des enfants, et les enfants, ils jouaient plus... Enfin, c'est plus la Batmobile, ça qui intéressait que Batman, quoi. Batman, ils s'en foutaient, quoi. Donc, voilà, c'était... c'était pas super pour lui. Donc, voilà, donc c'est un peu un acteur qui a eu une carrière qui a vraiment décollé d'un coup, qui est passé vraiment dans un gros coup de vide, qui est revenu de temps en temps, et puis qui maintenant, bah là, je pense que c'est fini. Au final, ça ressemble quand même vachement à une carrière à la Bruce Willis. Hein.
Ouais, et puis il a son caractère, quoi.
Ouais.
C'est ça, après, derrière, les réalisateurs avec le bouche à oreille, ils hésitent à travailler avec tel ou tel acteur un peu soupolé ou, je sais pas, qui a des exigences ou des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de travailler. Ou alors le gars, il veut faire ce qu'il a envie de faire, de jouer comme il a envie, et pas forcément comme le réalisateur lui dit de faire. Donc c'est vrai que c'est...
Puis on a conscience, parce que c'est presque la première phrase dans le documentaire, je me suis fait virer de tous mes films.
Ouais.
Bon, c'est pour ça que finalement que c'était peut-être The Doors, c'était le rôle de sa vie, parce que finalement Jim Morrison il est assez proche de lui pour ce genre de choses, quoi.
Ouais, dans l'esprit un peu barré, ouais. Mmh.
Donc voilà, c'était le petit aparté Val Kilmer.
Bien, bien, bien.
Et ben, voilà.
Et bien, on va s'écouter un petit truc avec justement, tu parlais du savant là. Ben, on m'a dit que c'était le Alfred dans les Batman. Et on va s'écouter un extrait justement avec lui.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici?
Je m'appelle Nick Rivers. Et vous?
Mon nom est Paul Flamand. Et on m'a emprisonné dans cette forteresse, tout comme vous. Voyez-vous, il y a de ça un an, j'avais réussi à mettre au point la maquette d'un procédé de désalinisation magnétique si révolutionnaire qu'il était susceptible d'extraire le sel de plus de 85 millions d'hectolitres d'eau de mer par jour. Vous vous rendez compte de ce que cela rapporterait aux nations affamées du monde entier?
Waouh! Ça leur ferait une réserve de sel inépuisable.
Mais une nuit, des gens de la police pénétrèrent chez moi. Ils eurent la cruauté de m'arracher à ma famille, de saccager mon laboratoire et m'enfermèrent dans ce donjon.
Quel salaud!
Pour la première fois de ma vie, le métier de savant me fait honte.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ils veulent me forcer à construire une arme terrifiante.
Et vous pouvez pas refuser?
Je voulais refuser, mais ils ont osé arrêter ma fille. Ils la tueront si je n'ai pas mis au point la mine Polaris samedi.
Samedi? Mais c'est le jour du sabbat!
C'est aussi le jour où la totalité des sous-marins de la flotte alliée passe le détroit de Gibraltar.
C'est ça, la mine Polaris?
Oui. D'ici samedi, je suis censé l'armer d'une ogive nucléaire.
Et comment ça fonctionne?
C'est un dispositif magnétique d'une telle puissance qu'il peut attirer un sous-marin à des kilomètres de distance.
Et ça, là, ça sert à quoi?
Oh, non! Il faut que vous filiez en vitesse. S'il découvre que vous avez vu ça, votre vie vaudra moins qu'un wagon de rats morts dans une usine de tampons périodiques.
Ouais, du coup, c'est l'extrait où... Nick Rivers, il cherche à s'évader de sa cellule, et puis il finit par arriver justement dans le laboratoire du savant. Et là, on le voit pas à l'image, mais bon, il gaffe, il allume le dispositif et du coup, ça attire un sous-marin jusque dans le labo. C'est le bruit fracassant qu'on entend du sous-marin qui défonce le mur. Voilà, donc là aussi c'est un truc complètement barré, parce que quand il veut s'évader de sa cellule aussi, il sort par le plafond, par les trucs d'aération, ben c'est complètement barré. Et maintenant que t'as dit que c'était la voix de Vegeta, j'arrête pas d'entendre, j'entends que Vegeta.
Quand t'as le Netsi, maintenant c'est fini.
C'est infernal. Bah, Blood, tu vas nous dire un petit peu plus en détail qui joue un peu dans ce film, parce qu'il y a pas mal de second rôles, mais qui ont fait beaucoup de films à succès. Vas-y, on t'écoute.
Alors, donc, Lucy Guthridge est une actrice anglaise née le 28 novembre 1956 à Lewisham, c'est dans Londres. Elle est doublée donc par Anne Jolivet, qui double aussi Catherine Turner dans La poursuite du diamant vert, si jamais vous avez déjà vu ce film, avec Michael Douglas. Alors, ensuite, il y a Billy Jim Mitchell, donc celui qui fait le manager de Nick. Lui, il est né le 16 juin 1942. Il est décédé en 1999 en Angleterre, donc c'est un acteur américain. Donc, on le voit dans Superman en 1978, il fait le premier éditeur. Dans Star Wars d'épisode 6, en 83, donc le retour du Jedi, il fait Cair Santage, je ne sais plus comment faut dire. En 83, il est dans Jamais plus jamais, il fait le capitaine Pederson. En 88, Qui veut la peau de Roger Rabbit, il fait le deuxième médecin légiste. En 89, dans Indiana Jones, la dernière croisade, il fait le docteur Mulbray. En 1995, dans GoldenEye, il joue le rôle de l'amiral Chuck Farrell. Ensuite, dans les seconds rôles aussi, nous avons Christopher Villiers, donc lui qui est acteur, scénariste, réalisateur et producteur britannique. Il est né le 7 septembre 1958 à Londres. On peut le voir dans Lancelot, le premier chevalier, c'est un film de 1995. Il joue Sir Kay. Michael Gow, donc lui, il est né le 23 novembre 1916 à Kuala Lumpur, donc c'est en Malaisie, bien sûr. c'était alors une colonie britannique. Et il est décédé le 17 mars 2011 à Londres. C'était un acteur britannique, donc. Alors, en 58, il est dans Le Cauchemar de Dracula, de Terence Fisher. Il joue Arthur Holmwood. En 62, il est dans Le Fantôme de l'Opéra, de Terence Fisher, toujours. Et il joue Lord Ambrose Darcy. En 68, La Maison Ensorcelée, de Vernon Sewell. Il joue Elder. En 73, il est dans La Maison des Damnés. En 89, donc, dans Batman de Tim Burton, il joue donc le fameux Alfred Pennyworth. On le voit en 92 aussi dans Batman le Défi, normal, vu qu'il fait Alfred. En 95, dans Batman Forever. En 97, dans Batman et Robin. En 99, dans Sleepy Hollow, La Légende du Cavalier sans tête de Tim Burton, il joue le notaire James Hardenbrook. Ensuite, nous avons Jim Carter, qui est un acteur anglais né le 19 août 48. Donc, il est né dans le New Yorkshire. Lui, on le voit dans Flash Gordon, en 1980, il joue l'homme azur. En 96, Les Virtuoses, il fait Harry. Ensuite, il est dans la série Downton Abbey de 2010 à 2015. Il joue Monsieur Carson.
Il a un rôle important dans la série.
Ouais.
Aussi, je n'ai jamais vu cette série, donc je ne peux pas dire. Mais par contre, je sais qu'elle cartonne en récompense. Ensuite, nous avons Omar Sharif. Il joue. Il joue n'importe quoi. Il s'appelle Michel Dimitri Chaloub, donc dit Omar Sharif. Il était né le 10 avril 32 à Alexandrie. Il est mort le 10 juillet 2015 au Caire. Donc c'est un acteur égyptien. On le voit en 62, donc dans le film Laurence d'Arabie de David Lean. Il fait Sheriff Ali Ibn El Karish. Pardon si j'ai mal prononcé. En 65, il est dans le Docteur Jivago de David Lean, toujours. Il joue Yuri Jivago. En 71, il est dans Le Casse, dans Rivière d'Oeil. Il joue Abel Zakaria, le flic bien. Il embête bien Belmondo dans ce film. Hein. En 74, il est dans Top Secret, donc de Blake Edwards. Il fait Féodor Svendlov, c'est un espion. En 76, il est dans Quand la Panthère Rose s'en mêle. Il joue donc l'espion égyptien, donc le film de Blake Edwards. En 73, L'île mystérieuse, c'était un feuilleton télévisé, là, il fait le capitaine Nemo, c'était de Juan Antonio Bardem. Ensuite, toujours dans les acteurs de second rôle, nous
il y
avons
avait aussi pour Omar Sharif, conseil, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, en 2003. Ah, ouais. Qui est une adaptation d'un bouquin, et franchement, j'en ai un très très bon souvenir de ce film.
Okay.
Gertan Klober est un acteur britannique né le 5 mars 32 en Tchécoslovaquie. Il est décédé le 1er août 2008 à Londres. Donc, on peut le voir dans Octopussy en 83. Il joue Bubi. Comme ça, de mémoire, je ne vois plus c'est quoi son rôle.
Ouais, ça doit être un petit rôle aussi.
En 87, il est dans Tué n'est pas joué. Il fait le propriétaire du café de la fête foraine, donc encore dans un James Bond. Ensuite, toujours dans les seconds rôles, Ian McNeice, donc né en octobre 50 en Angleterre. Et puis donc, il est plus connu. Hein, quoi? C'est un acteur britannique connu à l'échelle internationale. Bah oui, il est dans Absalom de 2022, c'est en 94. Il est dans Ace Ventura en Afrique en 95. Il fait Fulton Greenwald. En 2001, dans From Hell. En 2001, toujours dans Le Tombeau, il fait le Dr Sproul. En 2005, H2G2, le guide du voyageur galactique, il fait Quartz. Ensuite, nous avons Mac McDonald. Donc lui, il est né en 49 à Long Island. On le voit dans Rollerball en 75. En 85, on le voit dans Le Justicier de New York. Il fait un policier. Ça, c'est un super film aussi avec... Charles Bronson. En 86, on le voit dans Alien le Retour. Il fait Al Simpson, un officier de la colonie, hein, c'est ça, je crois.
J'ai
vaguement vu. J'ai juste vu le premier, puis le troisième d'Alien. Ensuite, en 87, dans Superman 4, il fait le Marshall. En 89, dans Batman, il fait Gunn. En 90, dans Cabal, il fait Lou Rickman. En 97, le cinquième élément, il fait un des flics qui sont dans les voitures volantes. Ensuite, nous avons un certain Peter Cushing, donc qui est un acteur britannique né le 26 mai 1913 à Kinley, donc dans le comté de Surrey. Et il est mort le 11 août 1994. Et puis, mais Kaiser nous en dira plus tout à l'heure.
Ouais, donc on voit bien que dans les seconds rôles, ils n'ont que second rôle dans ce film-là parce qu'ils ont eu pas mal de premiers rôles dans d'autres films. Et notamment Omar Sharif, qui a joué aussi dans Top Secret. Les films portent le même nom, de Black Edwards. Donc, je pense que c'était un petit clin d'œil de le faire revenir dans ce film-là.
Bah, écoute, tu regardes bien, beaucoup du casting joue dans des films d'espionnage, hein.
Ouais, c'est
Ouais,
vrai.
ouais.
C'est vrai,
Espionnage
c'est
et puis
vrai.
un peu fantastique horreur.
Ouais, c'est vrai. Pour la partie Michael Gould ou tout ce qui est le cauchemar de Dracula, Maison ensorcelée, Maison des damnés, tout ça. Sa
Non.
première partie de carrière, c'est vrai que c'est un peu ce genre de rôle-là.
Ah, quand tu regardes Michael Gould, ça va être le seul acteur qui fait tous les Batman avant l'ère Nolan.
C'est vrai. C'est vrai. On le retrouve dans beaucoup de Batman à faire le rôle de. Ça y est, j'ai pas vu le nom.
D'Alfred.
D'Alfred, ouais, merci. Et puis, bah, tout à l'heure, je disais dans l'introduction, on a à la musique, on a Maurice Jarre. Et Maurice Jarre, bah, c'est un compositeur français de musique de scène et de musique de film. Lui, il est né en 1924 et il nous a quittés en 2009. Et il a débuté sa carrière cinématographique dans les années 50. Et bon, il a fait énormément de musique de film, mais parmi un peu ce qui ressort du lot pour moi, en 62, on lui doit la musique du jour le plus long. En 62 encore, la musique du film de Laurence d'Arabie. Paris brûle-t-il en 66. Firefox, l'âme absolue avec Clint Eastwood en 82. Mad Max au-delà du Dôme du tonnerre en 85 et la musique de Ghost en 90 avec Patrick Swayze. Et il a eu pas mal de récompenses, hein. Il a même une étoile qui porte son nom sur le Hollywood Walk of Fame. Il a été récompensé de 3 Oscars de la meilleure musique de film, chaque fois pour un film de David Lean. En 63 pour Laurence d'Arabie, en 66 pour Docteur Jivago, en 85 pour La Route des Indes. Il a été récompensé également de 4 Golden Globes de la musique, de la meilleure musique de film. 66 Docteur Jivago, 85 La Route des Indes, 89 Gorille dans la brume, 96 Les Vendanges de feu, et puis d'autres récompenses, hein. En 85, il a eu le 7 d'or dans la catégorie meilleure musique originale pour Au nom de tous les miens. En 86, il a eu un César d'honneur. En 89, il a eu un BAFTA de la meilleure musique de film pour Le Cercle des poètes disparus. En 91, il a une récompense Top Box Office Film par l'American Society of Composers pour Ghost. En 87, il a le prix SACD pour la catégorie musique. En 99, un hommage du Festival du cinéma américain de Deauville. En 2005, le prix du cinéma européen, European Award d'honneur contribution européenne au cinéma mondial. Et en 2009, l'Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Donc c'est un gros, gros, gros compositeur et de musique de film. Et puis oui, bah, son fils, qui est Jean-Michel Jarre, qu'on connaît tous pour ses musiques. Au synthé, fin 70, début 80. Voilà.
Et ses concerts.
Et ses concerts aussi, et ses concerts. Donc, ouais, c'est marrant que un petit Frenchie se retrouve là dans ce film-là. Mais bon, quand on revoit les films qu'il a fait, il y a pas mal de films aussi internationaux. Donc, C'est... Oui, il a fait des musiques très très sympas. Bah allez, tiens, en parlant de musique, on va se passer un petit extrait.
Oh, papa, tu es sain et sauf, toi.
Ma petite fille, comme j'ai eu peur de ne jamais te revoir. Je suis tellement fier de toi, ma chérie.
Je vous en prie, dans l'avion, vous aurez tout le temps de parler. Dépêchons-nous.
L'avion décollera sans moi.
Mais Hilary...
Non, papa, on a besoin de moi ici. Aussi longtemps qu'un seul être humain devra en découdre avec le gant de fer de l'oppression, aussi longtemps qu'un gosse crie tout seul dans la nuit ou qu'un acteur peut être élu président, on n'a pas le droit de rester indifférent.
Non, Hilary. C'est beaucoup trop dangereux pour toi en Allemagne de l'Est.
C'est vrai. Va avec, Nick. Ne te fais aucun souci pour nous, nous entendrons sa musique telle la voix de l'Amérique. Elle résonnera dans le cœur des peuples, dans les supermarchés, partout.
Et tant que nous l'entendrons, nous ne serons pas seuls dans notre combat.
Ils ont raison, tu sais. Et quand nous serons en Amérique...
Qui sait ce qui nous attend là-bas?
Notre bonheur sera parfait.
Mais tout change. Le monde change. Les tours de taille changent.
Hilary, je veux te garder près de moi.
Le cours du dollar change si vite. On est sûr de rien.
Oui ou non, veux-tu venir avec moi? Si c'est non, dis-le tout de suite.
Si je veux. Plus que tout, je le veux. Si tu veux de moi, je pars avec toi.
Voilà, donc ça c'est la scène finale du film qui est, bah, qui reste dans le truc complètement barré aussi parce que. Faut encore une fois, hein, j'insiste sur le fait qu'il faut voir le film pour comprendre tout. C'est parce qu'en même temps qu'ils font leur dialogue, il se passe plein de trucs. Donc dans l'esprit, hein, des yatil, etc. Donc on a Blout maintenant qui va nous dire justement qu'est-ce qu'on retrouve tout autour du film, les petites anecdotes croustillantes. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Blout?
Alors déjà, je rappelle qu'il faut pas confondre avec le film donc Top Secret, film d'espionnage américano-britannique de Blake Edwards qui est sorti en 74, vu que c'est aussi avec Omar Sharif.
Ouais, voilà. ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais.
Mais l'autre,
ouais.
C'est avec un point d'exclamation, c'est pas pareil.
Et en plus, oui.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc, dans le film, là, ouais, il y a de nombreux dialogues qui sont censés être en allemand et en fait, en réalité, c'est du yiddish.
Oui, mais donc, ensuite, ouais, c'est trompeur.
En autre anecdote, le personnage de Nick Rivers donc, est une jeune star du rock'n'roll s'inspirant principalement d'Elvis Presley. Pourtant, la première chanson que passe le général Streck, le tube Skid Surfin', s'inspire plus de du son des Beach Boys, qui fut à l'époque considéré comme opposé à celui du King. Sauf que c'est, mais bon, ça reste quand même du rock, quoi. Un gag passe inaperçu au cours des années qui suivent la projection dans les salles. Lors de la réception au début du film, Nick Rivers reçoit un vin blanc de millésime 1985, qui en toute logique n'existe pas alors.
C'est le fameux truc qui fait fondre le verre.
Ouais. Ça. Vu que le film, ça se passe avant, si ça.
Ouais, c'est vrai.
C'est complètement déjanté. Faut regarder partout, quoi. La scène chez le libraire suédois a été tournée entièrement à l'envers. Les dialogues censés être du suédois sont en réalité les dialogues anglais correspondant aux sous-titres, mais prononcés à l'envers.
Ouais, donc la scène avec Peter Cushing.
Mm-hmm. Ouais, avec sa loupe.
Ouais.
La scène finale du film est la parodie de la scène d'adieu du magicien d'Oz où est présent l'épouvantail.
Ouais, donc bah, l'extrait qu'on a entendu.
La scène des naufragés sur l'île déserte ainsi que les personnages d'Ange et dans la moindre mesure de Hilary sont largement inspirés du film Le Lagon Bleu en 80 de Randall Kleiser.
Alors ça c'est quand même super drôle parce que j'ai jamais vu Le Lagon Bleu. Pourtant, en voyant la scène, j'ai tout de suite fait le rapprochement. C'est bizarre.
Hein. Ah, ouais, c'est bizarre.
Peut-être avoir vu plein des extraits, peut-être.
Bah, je suis même pas seul à avoir vraiment vu des extraits, mais des images, des affiches et tout, aussi plein, tu vois.
Ouais.
Mais
il me
ouais.
semble que le Lagon Bleu, je crois que on l'avait vu ça au ciné quand c'est sorti.
Je crois, mais je.
Si, je crois. Si.
Le top aurait été de garder tous les tickets de ciné.
Oh, je l'avais fait pendant une époque, j'en avais une tonne. Mais maintenant, ça sert plus à rien, on n'a plus de tickets.
C'est vrai.
Bon, t'aurais la date dessus, tu vois, t'as le ticket. Tiens, regarde, tel jour, j'étais voir. Ah bon. Je continue. Alors, dans la version française, le prêtre qui est censé accompagner Nick vers la mort prononce en guise de prière un enchaînement de formules latines qui sont presque uniquement des exemples de grammaire. Et on entend à la fin trois des camps retranchés romains des albums d'Astérix. Laudanum, petit bonhomme, baborum. Dans la version anglaise, après une verbigération macaronique, on entend le début de la première phrase de la guerre des Gaules de César, puis des citations et des expressions latines courantes.
C'est marrant, parce que vu que j'ai fait du latin, quand je l'ai entendu, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, parce que ça ressemble vraiment à des phrases genre Brian in the kitchen du latin, quoi, tu vois.
Ah oui, d'accord, vraiment, ah ouais, carrément.
Ça,
ah oui.
Ça donne vraiment l'impression, du coup, ouais, c'est que des enchaînements de trucs que tu apprends en cours, mais juste comme ça, complètement basiques, qui n'ont pas de sens quand tu les enchaînes, quoi.
Ouais.
Forcément, c'est fait exprès pour que ça fasse un gag. Quoi.
Bah oui, parce que du coup, quand tu le remarques, tu fais ok, d'accord. Il dit n'importe quoi.
Ouais.
Et oui, ce qui est chouette, c'est que c'est Val Kilmer lui-même qui interprète les chansons du film. Et il le fera à nouveau quelques années plus tard dans Les Doors en 91 et dans True Romance en 93. Concernant la scène où la voiture allemande heurte une Ford Pinto et la fait exploser, il y a une allusion au problème très médiatisé à l'époque du réservoir d'essence de la Pinto qui, en cas de choc arrière, pouvait tout simplement exploser.
Ouais, et puis on n'évoque pas aussi tous les gags qu'il y a, qu'il faut regarder, tous les trucs. Je pense à un moment donné, le gars, on lui demande l'heure. Alors la caméra, elle filme la montre et d'un seul coup le plan s'élargit et on se rend compte que en fait la montre, elle est à la taille du ce que filmait la caméra à l'écran, c'est-à-dire que la montre, elle est immense quoi.
Ça, ou les jumelles avec les vaches qui passent par-dessus le.
Ouais ouais. Et quand ils font le plan aussi, alors là, en premier, on est là. Alors, il y a les petits gravillons, ils font des petits bonhommes et tout. Puis après, il y a vraiment le petit train sur le...
Ah oui, c'est un plan d'enfer, ça aussi.
Ah oui, ah ouais.
C'est un truc dessiné dans le sable et ça finit, c'est un modèle réduit, quoi.
Et puis, quand il marche aussi dans les feuillages, ça fait chut. Alors, il fait chut. Alors, après, il continue, puis on n'entend plus rien.
Ouais, donc on a passé tous ces trucs-là parce que c'est difficile de... Non, il faut franchement, faut le voir. Et oui, tout à l'heure, on avait fait une parenthèse sur Peter Cushing parce que Benoît va nous faire un petit, va nous en parler plus en détail. Vas-y,
oui,
on t'écoute.
Parce que c'est un acteur, pareil, c'est le genre d'acteur où quand tu le vois, tu sais, ah, je l'ai vu quelque part, mais alors où? Et qui finalement n'a pas eu une carrière si longue, si quand même, mais elle nous paraît loin maintenant. Parce que il est né oula, il y a une erreur. Ah oui, merde. C'est parce que j'ai collé la date de naissance de Val Kilmer dedans. Parce que je vois, il est né en 59. Je suis là, c'est pas possible. Il est né en 1919, un truc comme ça. Hop. Il faut que je vérifie parce que ma date a été écrasée. 1913, voilà. Donc, Peter Cushing, lui, est né en 1913. Donc, ça fait donc 110 ans. Et il est mort en 94, à l'âge de 81 ans. Voilà, il est né... Enfin, il est mort 10 ans après le film, quoi. Et pourtant, beaucoup le connaissent encore et connaissent son visage pour un truc qu'on va revoir après. Donc, il est connu pour des succès à télévision. Et dans des pièces de théâtre telles que The Brooding Version de Terence Reddick et Richard of Bordeaux en français, de Gordon Davio et The Creature de Nigel Klein en 55. Mais la télévision, c'est vraiment pas son truc. Il trouve que c'est super stressant. Et du coup, bah, il va retourner au cinéma. Alors, il a eu une carrière un petit peu à la Christopher Lee, parce que ça a été une des figures des films de la Hammer.
Carrément.
Et voilà, donc la Hammer, très connu pour ses films de monstres. Donc déjà de base, lui, il était très intéressé par faire le rôle du fameux baron Victor Frankenstein. Et du coup, maintenant, c'est rentré dans ma tête. Tout ce qui finit par Stein, en anglais, ça se prononce Sting. Comme les Weinstein, les compagnies, donc c'est Frankenstein. Donc forcément, film de la Hammer. Contrairement à Val Kilmer, là, sur le coup, là, les studios, ils étaient vraiment impatients de travailler avec lui. Il était très attendu dans ce type de production. D'ailleurs, Jim Carrey, un des cofondateurs de la Hammer, avait déjà tenté plusieurs fois de le recruter pour d'autres projets. Mais là, du coup, ça a matché pour les deux. Et donc, forcément, il a été choisi pour le rôle et ça a été le début d'une carrière dans les films de la Hammer. Du coup, il a continué après Frankenstein dans 5 films Dracula. Souvent, oui, du coup, à côté de Christopher Lee. Donc, ouais. Ça, je disais, la carrière est quand même assez similaire. Et d'ailleurs, ils sont devenus amis. Il a également aussi travaillé par-ci par-là avec Vincent Price sur les films d'horreur, notamment. Sur les autres films de la Hammer, il a joué dans The Abominable Snowman en 57, La Momie et Les Chiens de Baskerville, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs.
Ah, il est génial.
Ouais, il faut que je le voie, c'est quatre. C'est pareil, hein, c'est le genre de truc où j'ai toujours l'affiche en tête, tu vois.
Ouais.
Ah oui. Peut-être parce qu'aussi, il y a une époque, on avait des magazines qui étaient consacrés à te donner des jaquettes pour tes vidéos que t'enregistrais.
Ah. Bah ouais.
Et d'ailleurs, je me rappellerai toujours un truc qui n'a rien à voir, hein, mais bizarre que ça m'est resté. Parce que du coup, t'avais la jaquette avec l'affiche, la tranche et le dos avec le synopsis et des captures, des captures d'écran, quoi.
Ouais.
Et dans New York 97, les captures d'écran, c'était celles d'un film Kevin Costner. Ouais, je crois que c'était un film. Je crois que c'était Danse avec les loups ou un autre film.
Ah, c'était planté.
Ouais. Et ça m'est resté.
Je crois que de mémoire, t'en avais deux. Il y avait cassette.
Télécassette.
Télécassette et TV vidéo jaquette.
Ouais, ça veut dire ça.
Voilà, ouais. Et tu découpais, c'était, il y avait que ça dedans. Le pire, c'était quand tu tombais sur une page où d'un côté t'avais un film de chaque côté et il te fallait les deux.
Génial.
Mais ouais, on l'a tous. Si t'achetais pas les films, tu les enregistrais et après, il te fallait la boîte avec la jaquette. Ouais.
C'est ça.
Ah. Ouais.
Et une époque très spéciale.
Toute une époque, ouais.
Du coup, pareil, il a reçu pas mal de récompenses, dont certaines de la part de la British Academy of Film and Television Art. C'est très très long. En gros, c'est la BAFTA, hein. Pour faire plus court. En 56. Du coup, il a été aussi connu parce que il a un rôle emblématique dans Star Wars. Le premier.
Ah bah oui.
Et du coup, Cushing avait exprimé des objections concernant les bottes d'officier impérial qui étaient inconfortables. Et du coup, George Lucas lui a permis de porter des pantoufles sur le tournage. ces dernières années, on en a surtout beaucoup entendu parler parce que ça a été un petit peu, malgré lui, donc quand même plusieurs décennies après sa mort. Ça a été un petit peu le premier point pour savoir, et du coup après dans les films Star Wars ils se sont pas gênés, sur l'utilisation des versions numériques d'acteurs décédés.
Oui.
Parce qu'il a été réutilisé dans Rogue One.
Oui.
Et donc c'était c'est pas la première fois qu'on a fait ça, mais de cette façon-là, et ça a marqué quelque chose. Parce qu'avant, il y avait je crois que c'était un peu avant d'ailleurs, l'histoire avec Paul Walker.
Oui.
Mais là, c'était un peu différent. C'était pour finir les films. C'était un petit peu le même genre de problème qui avait été posé pour The Crow.
Ouais, ah, aussi, ouais.
Là, bon, c'était pas des doublures numériques, c'était des doublures.
Ressemblantes, ouais, parce que pour Paul.
Paul Walker,
c'est son frangin, ouais, qu'ils avaient repris. Donc c'est vrai qu'il y a un petit air. Mais là, c'est carrément un acteur sur lequel ils ont mis. Le visage de Peter Cushing. Ouais.
C'est ça, du coup, gros double numérique, et après, bah, forcément, ils sont pas gênés, ils ont fait la même chose avec Léa, avec.
Ah bah maintenant, avec les intelligences artificielles, oui, il y aura même plus besoin d'acteurs.
Bah, du coup, maintenant, ouais, Disney, ils se gênent pas pour ressusciter à peu près tout ce qu'ils peuvent de leur univers Star Wars, quitte à préférer foutre de l'argent là-dedans que dans des bons scénarios. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bah,
tout à l'heure, tu l'as pas dit, mais pour Val Kilmer, quand il joue dans. Dans Top Gun
Maverick,
comme il ne peut plus parler, c'est une IA qui reprend sa voix et qui fait la réplique dans le film.
Oui, comme d'ailleurs dans la série, comment ça s'appelle, Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi.
Ah oui.
Kenobi tout court d'ailleurs, c'est la série. Pour la voix de Dark Vador, quoi.
Ouais, c'est. Ouais, maintenant avec les IA, c'est sans fin. On peut même recréer un film entier avec un acteur décédé depuis 20 ans. Enfin bon, bref, c'est sans fin, quoi.
Un jour, j'aurai peut-être enfin mon film avec Schwarzenegger et Louis de Funès dans le même film.
Oh, le combo. Ah, c'est
possible. Ouais, mais Schwarzy jeune aussi, non?
Ah oui, pourquoi? Ouais. Ah ouais, tiens.
Bah oui, pour le film quand même.
Ouais. Ouais, c'est là que du coup, il y a plein de films qui doivent se mordre les doigts. Justement, tous les Terminator et tout, ils auraient pu avoir un Terminator bien fait. Ils ont eu des vieilles copies numériques, des fois, un peu moches, là.
Ouais, c'est sûr.
Donc ouais, après...
Ouais, enfin bon, ça, on verra ce que le futur nous réserve. Ouais.
C'est ça, ça c'est un débat. Le problème dans ce genre de truc, c'est que l'industrie, mais surtout du cinéma américain... l'utilisera pas à des fins artistiques, mais plus à des fins pécuniaires, même si, franchement, ça commence à être compliqué. Je sais pas pour vous, hein, mais du coup, cette petite aparté sinoche. Mais ouais, comme je disais un petit peu avant, je crois que tous les derniers films que j'ai vus, ce sont tous des films français. Et des films plutôt ambitieux, hein, genre Le règne animal, Acide, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Tropique aussi, qui est du coup un peu plus... Confidentiel, et le troisième, je sais plus ce que c'était. Ah oui, bon, c'était un autre truc, mais rien à voir. Plus film français, c'était un métier sérieux. Rien à voir avec ce genre de production. Mais du coup, c'est des films qui valent 20-30 millions maximum, quoi. Et c'est quand même des films où on a des Romain Duris ou des Guillaume Canet, donc nos Tom Cruise à nous, quoi. et ce que je veux dire, c'est que quand tu vois. Que maintenant, un blockbuster, même un Blue Beetle, là, ça descend plus en dessous de 200 millions. Même avec un casting, j'allais dire Osef, mais pas de grosses têtes d'affiche et compagnie, là. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans les productions pour avoir un gap aussi énorme? Et bon, l'une des explications assez simples, c'est que forcément, c'est quand même plus facile de camoufler un peu de détournement d'argent sur un gros budget que sur un petit, quoi. Mais bon, c'est quand même triste que ça en arrive là, et justement, si l'utilisation des IA et compagnie se généralise dans les films, ce sera pas pour réduire les coûts de production, mais pour réduire les marges au détriment... certainement de tous ceux qui les font, ces films.
Ouais, non, mais bon. Ouais. Après, ça peut aller loin, hein, et on peut même... tout à l'heure, on parlait des Doors avec le film, là, mais on peut faire un nouvel album des Doors, avec Jim Morrison qui revient chanter, et voilà, quoi.
Ah oui, ça.
On peut faire pareil pour les Beatles, pour les Pink Floyd, et j'en passe.
Avec un solo de Jimi Hendrix.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu refais venir un nouvel album de Jimi Hendrix, tiens, paf.
Non, mais qui jouerait sur les chansons chantées par Jim Morrison.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Ouais.
Et tu peux même faire un album de Renaud. Renaud sait chanter.
Avec John Bonham à la batterie.
Non, mais bon, après, c'est vrai que les... on en rigole, mais c'est voilà. Et il y en a pour faire du fric. C'est vrai, comme tu disais, Benoît, ils vont pas se... voilà. Pourquoi pas refaire venir un acteur, tiens, dans tel film. C'est sans fin. Enfin bref, on ferme la parenthèse parce que là, sinon on va partir dans les... Non, mais sinon, pour en revenir au film, plein de gags partout.
Oui.
Vas-y, Benoît, dis-nous un peu du début à la fin. Comment t'as approché le film, les gags, etc. C'est le rythme du film, etc. Les dialogues, c'est t'en penses quoi, toi?
Alors, du coup, c'est vrai que ce qui marque là, vraiment la différence avec un film actuel, c'est la temporalité des gags. Et le fait que, justement, on n'essaie pas de t'arracher un rire à tout prix. Et du coup, bon, c'est à remettre dans son contexte. Donc, forcément, où tu vas peut-être pas te marrer comme une baleine tout au long du film. Mais c'est parce qu'on est habitué à ça. Et franchement, je regrette un peu qu'on en... On en soit des fois à des humours où c'est juste de la punchline et compagnie, où forcément, si tu débites 50 conneries à la minute, t'en as bien une qui va te faire rire dans le lot. Mais finalement, si tu regardes dans la qualité globale de l'humour, elle n'est pas là. Alors que là, comme je disais, là, t'as peut-être plus le rire, parce que... Enfin, t'as plus le fou rire, ou tu vas pas l'exprimer de façon claire, mais t'as quand même... Enfin, tu vois quand même le génie de la mise en scène, ou le truc où tu fais « Mais putain, mais... » Il y a des gags, je me suis dit « Mais... » Mais merde, ils ont dû mettre 20% du budget du film pour un gag de 3 secondes, quoi. Sans déconner, tu vois, tu te dis, merde, enfin, le temps de préparation de la blague, ça a dû être un travail incroyable, tu vois. Et on a quasiment plus ce genre de choses, sauf 2-3 exceptions. Et du coup, je pourrais conseiller une série qui s'appelle Angie Tribeca, qui est disponible sur le Pass Warner, avec, comment elle s'appelle, Rashida Jones, qui jouait dans Park and Recreation.
Elle est complètement déjantée dans cette série.
Et ouais, et du coup, c'est vraiment ce genre d'humour et compagnie complètement absurde. Alors, les premiers épisodes de la première saison, ça fait bizarre, parce qu'il faut vraiment se mettre dedans, se dire, bon, on n'est pas dans un truc à la Marvel avec des gags de merde. Là, c'est vraiment pousser les curseurs à fond. Et en plus, ce qui fait le sel de ce genre de truc, c'est que justement, bah, quand tu prends dans Top Secret des Val Kilmer et ce genre d'acteurs, des Peter Cushing et compagnie, même des Omar Sharif, c'est parce que t'as besoin de leur sérieux pour que la blague marche. Parce que ouais. Foutre un Val Kilmer dans Sonic, moi c'est pour ça que j'avais détesté le Sonic et j'ai pas envie de regarder le deuxième, c'est qu'on me dit ouais, Val Kilmer, n'importe quoi. Jim Carrey fait une prestation incroyable, mais non, moi je voyais Jim Carrey qui fait du Jim Carrey, tu vois, du coup je vois pas où est l'écriture du personnage, tu vois. Tout repose sur le talent comique de Jim Carrey et pas sur l'écriture du personnage.
Ouais.
Ce qui est complètement con. Alors que là, c'est pareil. Et du coup, pour moi, les Angie Tribeca, la série, c'est les héritiers de ce genre d'humour où il se passe plein de trucs et les personnages sont toujours ultra sérieux à te balancer et à faire des conneries monumentales, quoi. Enfin, c'est incroyable. Comment c'est foutu au début, ouais, il faut vraiment s'y mettre. Ça fait un peu bizarre au début, mais à la fin, voilà. Et en plus, Top Secret, c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour ce genre de film, pour les redécouvrir, surtout pour les jeunes, parce que, mine de rien, c'est peut-être l'un des rares de tous les As qui a très peu, finalement, de références à son époque.
C'est vrai.
Du coup, hormis les côtés historiques, hein, forcément, mais je veux dire, c'est pas, justement... Il y a aussi beaucoup de comédies que nous, on a actuellement... Ou franchement, si t'es pas un enfant de la pop culture, avoir vu tous les Game of Thrones et compagnie, bah en fait tu passes à côté de tout parce que c'est que des trucs comme ça.
C'est peut-être aussi ce qui fait que Top Secret c'est le film le moins connu des As.
Oui.
Il est pas beaucoup passé à la télé, hein.
En plus.
Non, il est plutôt confidentiel, hein, dans la ouais. Film, c'est vrai que.
Comparé à tous les Y a-t-il, c'est vrai que. Les retransmissions à la télé, wow, ouais.
Mais peut-être aussi parce que qu'il y a-t-il, il y a eu le, comment dire, la personnification avec Frank Drebin, donc l'acteur, comment il s'appelle ?
Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen, voilà, c'est ça. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Mine de rien, il n'y avait pas des têtes d'affiche comme ça. Enfin, il y en a qui sont devenus après plus ou moins, mais que tu n'associes pas forcément à ça. Mais oui, t'avais quand même Leslie Nielsen dedans. Mais voilà, ouais, c'est vrai que du coup, ça se perd un peu. Ça s'était un peu retrouvé, bah, justement, dans le Scary Movie 3.
Oui.
Ou le 2, voilà. Enfin, c'était un peu. Moi, j'avais pas du tout aimé le 2. Faudrait que je le revoie maintenant, peut-être avec du recul, peut-être, je sais pas. Le 3, je me rappelle, j'avais plutôt bien aimé.
Après, c'est vrai que c'est des films parodiques, donc du coup, faut avoir les refs sur le film dont ils sont en train de se moquer, quoi. Si t'as pas la ref, tu passes à côté, quoi.
Normalement, une bonne parodie, c'est justement de pouvoir accrocher celui qui a la ref et celui qui l'a pas non plus.
Ouais. Ouais.
Et ça, c'est compliqué. Et on le voit, bah, justement, si tu regardes le premier Scary Movie, si tu regardes une merde de parodie là, que tu trouves sur Prime Video, là, tu vois bien la différence entre celui qui joue avec le code et celui qui essaie juste de faire une vanne à la con, que tu feras la machine à café en parlant de 300, tu vois.
Ouais.
Mais du coup, c'est quand même rigolo. Bah, il y a aussi un côté rigolo dans Top Secret sur la parodie, c'est que tu te dis... Ouais, à un moment, j'ai vu des gags et je fais... Putain, ce qui est triste dans ce gag-là, c'est qu'on parodie un ressort d'un film d'action sérieux et compagnie qu'on se tape encore aujourd'hui. Et tu fais, les mecs ont toujours pas compris qu'à un moment, c'est éculé à mort, tu vois. Et tu fais... Quand t'arrives à être devant comme ça une blague d'un film qui a 40 ans et que tu te dis mon Dieu on en a encore à faire ça aujourd'hui alors que même là ils s'en moquaient quoi. C'est incroyable. Et du coup voilà, et ouais, revoir Val Kilmer comme ça, tu te dis la vache, hein, c'était quand même un putain d'acteur, il avait une putain de gueule, il savait tout faire quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et toi, Blood, au niveau de Top Secret ?
Ouais, moi, les deux, trois premières fois que j'avais vu ce film-là, bon, maintenant, au moins 15-16 fois, j'ai pu compter, hein, mais en premier, je croyais que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, moi aussi, c'est marrant, parce que ça, du coup, c'est pas super clair hein, au début.
Voilà, ouais. Ce qui fait que je trouvais que c'était encore plus délire par rapport aux chansons, parce que c'est encore moins bon par rapport à la Seconde Guerre mondiale comme style de musique. Alors qu'en fait, bon, bah non, c'est pendant la guerre froide, quoi.
Bah oui.
Ah, mais le sketch avec le train, bah justement, ça, c'est un truc, tu te dis, mais budget là-dedans où ils font le bordel, et après, tu vois le truc qui défile, c'est le quai qui s'en va. Tu fais, mais c'est incroyable, en vrai.
Ouais, c'est un quai qui est sur un camion, ouais.
Parce que justement, c'est un truc, t'as juste une caméra fixe, mais ça joue justement avec le fait que bah, ça ne marche pas avec sans le mouvement d'une caméra et genre de truc, tu vois.
Ouais.
Et tu fais, mais putain, mais. Je l'ai. En plus, oui, moi, ça faisait partie de mes films préférés quand j'étais jeune. Je l'ai vu qu'une fois, hein, Top Secret, et j'en avais très, très peu de souvenirs. Et je revois ça et je me suis refait avoir, quoi. C'est dingue.
Et puis après, la scène qui suit, c'est juste un truc what the fuck où il y a un mec qui court après un arbre.
Ouais, c'est le gag, complètement.
C'est un arbre qui est monté sur des rails. Et là, tu te dis, mais c'est quoi le truc? Je suis où, là?
Puis quand le train arrive en gare, après hop, on voit, il descend, il monte dans le taxi, hop.
Le Pac-Man.
Ça finit en Pac-Man. Ouais.
Ouais, ça finit en Pac-Man. Ouais, non, mais c'est con. Et c'est que ça. Donc, ouais, non, mais c'est. Et en plus des gags, il se passe des choses derrière.
C'est surtout, je trouve, que c'est Val Kilmer qui chante. Moi, à chaque fois, maintenant, j'attends les chansons.
Ah, bah oui. Ouais. Mais tout à l'heure, on parlait des Doors. Hein. J'avais vu un documentaire justement sur les Doors et le film Les Doors, où les gars sur le plateau, ils pensaient entendre Jim Morrison chanter, tellement Val Kilmer a pratiquement la même voix que Jim Morrison. Et pour ceux qui ont connu Jim Morrison, ils ont dit dans le documentaire, mais Val Kilmer, il chante exactement pareil, quoi. C'est dingue. Et ça aussi, je conseille de regarder les Doors aussi.
Ah ouais, mais c'est un film incroyable.
Voilà. Donc, non, mais là, Top Secret, ouais, c'est. Si on veut passer un bon moment, c'est complètement déjanté. C'est un film du début des années 80, mais il y a pas mal de rêves sympas. film parodique à sketch. Ouais, c'est, je conseille, c'est à voir.
Avec le cheval qui chante.
Aussi, ouais. Pour ceux qui aiment ce genre de film, c'est complètement barré. Faut pas chercher à comprendre, quoi. C'est du sketch.
Bah justement, si, faut chercher à comprendre. C'est tout l'intérêt.
Non, mais des fois, comme le mec qui chope l'arbre, là, qu'est-ce que tu veux comprendre?
Bah justement, des moments, le sens, ça te vient pas tout de suite, mais tu le vois plus tard, quoi.
Oui, bah oui, oui. Mais voilà, quoi.
Par contre, la version qu'il y a sur Canal, là, les sous-titres sont tout petits. Oh la vache, ils te mettent en plus en plein milieu de l'écran. C'est compliqué à suivre.
Ah ouais. Ah oui, parce que toi, tu l'as regardé en VO.
Ouais, ouais.
C'est ça, en VOST, ouais, donc... Ouais.
Ah bah oui, tous les
et
films...
D'ailleurs... Que... Ouais. Non, c'est un film qu'on peut pas trouver en... Il n'a pas été réédité, je crois qu'il est sorti uniquement en DVD, mais depuis, il n'a jamais été réédité en Blu-ray ou Blu-ray 4K.
Bah là, on le trouve sur Canal+.
Ouais, après, on peut le trouver en VOD, ouais.
Et donc, il est en VOD et il est aussi dans le catalogue, et je pense qu'il est dans le catalogue parce qu'il vient de la Paramount, et du coup, il y a la Paramount TV sur MyCanal. J'étais surpris, hein, parce que je pensais galérer pour le trouver, et finalement, je... ah bah non, ça va.
Et c'est là que j'avais vu quelque part que quand il était diffusé à la télé sur la Paramount, sur la chaîne Paramount, ils avaient censuré certains passages, notamment celui quand il est en prison, là. Du coup, à la fin, quand ils disent que bah il s'est tué, on l'a retrouvé avec... le sextoy géant empalé dessus. Bon, on comprend pas pourquoi, parce qu'on n'a pas vu la scène où il le déballe déjà. Donc, ils avaient fait des coupures pas très, comment dire, pas faites au bon moment, quoi.
Ouais, non, mais le puritanisme comme ça, faut arrêter. C'est juste un sextoy. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, enfin, si on en vient à cacher des sextoys, c'est n'importe quoi. À un moment, faut arrêter le délire. Surtout qu'en plus, il y a plein de petites phrases ou de petits moments dans le film qui sont bien plus crus que ça.
Ouais, c'est vrai. Ouais, puis, bah, ça ressemble pas vraiment à un sextoy, c'est un truc complètement délirant. Voilà,
quand Ange avec la fille, ils sont justement tous les deux sur l'île, puis qu'ils commencent à se caresser sur la plage. Après, il y a combien de bras et de jambes?
Non, mais en plus, tu vois, t'en viens à cacher juste un passage avec un sextoy comme ça dans le machin. Dans ce cas-là, tu dois... Si tu censures ça, c'est que tu dois censurer genre un tiers du film. Comment il s'appelle, des frères Farrelly là, avec Brad Pitt.
Non, ah bah l'autre jour j'ai vu Babylone, c'est peut-être de ça que tu parles.
Non, rien à voir. Non, c'est pas les frères Farrelly. Je confonds. Je vais retrouver ce film. Hein. Putain, en plus il a un nom à la con. Comment ça se fait que je le retrouve pas.
Je dis rien.
Non, parce que dans Babylone, il y a des scènes de fou aussi. Hein.
Merde, c'est les réalisateurs de Fargo.
Alors là.
Fargo.
C'est pas les frères Cohen.
Oui, c'est les frères Cohen, justement. Ah, voilà, c'est ça. Ah, pourquoi Farrelly, moi, n'importe quoi. C'est les frères Cohen, normalement. Alors, si je dis pas de bêtises. C'est celui-là ? Non, c'est Burn After Reading ? Si, c'est ça ? Attends.
Burn After Reading.
Oui, ce serait bien Burn After Reading. Ouais, c'est ça, c'est Burn After Reading.
D'accord.
Donc, Burn After Reading, franchement, c'est pareil, c'est vraiment à voir. C'est n'importe quoi, mais un tiers du film, c'est George Clooney qui construit un sextoy, le sextoy ultime pour sa femme, quoi.
C'est dans la cave.
Ouais.
Ouais, ah oui, je l'ai vu il y a quoi, il y a peut-être 3 semaines ce film-là. Ah. Oh là là, le truc de fou.
Ouais. Bah, c'est le même genre de film finalement. Hein. Pas le même genre d'humour, mais pareil où t'as un peu des trucs qui s'entrecroisent un peu partout pour se réunir à la fin dans du n'importe quoi. Mais voilà, quoique, ouais, Burn After Reading, ça se rapproche plus d'un Kiss Kiss Bang Bang que d'un Top Secret. Mais ouais. C'est juste pour dire, si on en vient à cacher des scènes comme ça, c'est mon Dieu, c'est n'importe quoi, on coupe pas un film juste parce que ça nous plaît pas, c'est bon quoi.
Bon, enfin voilà quoi, donc un petit film sympa à regarder et je vous conseille. Voilà. Bah, on a fait le tour un peu. Si vous avez des dernières choses à rajouter, tous les deux, non, Blaoud ?
Si je ne me trompe pas, dans le générique de fin, quand il y a donc la chanson, je crois que ce sont les As qui font les Wababou, enfin qui chantent, qui accompagnent la chanson.
D'accord, ok. Benoît ?
Bah, je pense qu'on a déjà pas mal évoqué, pas mal de petits aspects. Comme ça,
après,
sympa.
Comme j'ai dit, je me répète, c'est dur de dire toutes les anecdotes au propos des gags et tout, tellement il y en a. Donc, faut le voir. Et peut-être même le revoir encore une fois voir ce qui s'est passé dans les coins des écrans, derrière, à droite, à gauche.
Puis c'est surtout des fois juste des dialogues. Aussi. Truc, t'as l'impression qu'il n'y a aucun sens, mais si tu les raccroches avec un autre truc, rien dans la scène finale, là. Ça paraît rien, mais en fait, t'as juste en train d'avoir un ressort de film d'espionnage et tout. On te dit non, mais moi je vais continuer la lutte, viens sans moi. Et puis on dit viens quand même, t'inquiète pas, tu m'entendras. Ah, ouais. C'est bon. Et en plus, ça fait référence à un truc du début du film où il disait mais oui, je le connais, je l'ai entendu dans l'ascenseur. Et finalement, ils font comme si c'était une carrière incroyable et tout ce qu'on en retient, c'est film d'ascenseur, quoi. Enfin, musique d'ascenseur, quoi.
Ok, eh ben on va se quitter sur ces mots et puis on vous dit déjà merci pour nous avoir écoutés et puis la suite au prochain numéro et on sait déjà sur quel film ça va être. Eh bien on vous dit à bientôt, on vous embrasse tous, ciao.
Salut et bon film.
Ouais. Wababaloobam, la bam boom, to the fruity, on Rudy, 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 to the fruity, on Rudy. Wababaloobam, la bam boom, got a girl named Sue, she knows just what to do. Got a girl named Sue, she knows just what to do. She knows how to love me, yes indeed. A boy don't know what to do. Oh Rudy, to the fruity, 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 oh Rudy. Oh wop-bop-a-loo-bam, a lop bam boom. Surfboard too. You see him shooting and surfing from here to Malibu. Because it's totally bitchin', riding waves and blasted agents. And it's so neat shooting ski while you're riding down the heavies all day. First wave, don't get tired. Second wave, aim higher. Third wave, pull and fire. Second wave, pull up trap. Third wave, how's that? I wish they all could be double barrel. Wish they all could be double barrel guns. Street surfing, can't you see? Do you wanna come along with me? Street surfing, can't you see? I met a girl like you in heaven. We would be if you would spend this night with me. If you would spend this night with me.
spend this time with me. Darling, I'm here to say, I pray there'll come a day when by my side you'll stay. And you will always be a love that's true to me. You set my heart on fire, it's burning with desire. Your touch, your lips, your soul, you make me lose control. Baby, please, baby, please, spend this night with me. Baby, please, spend this night.